Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour les grandes gueules du sport ce matin, votre émission incontournable du week-end, vous le savez, jusqu'à midi en direct, les GG qui ne s'arrêtent pas, même pendant les fêtes, et on vous accompagne pendant vos vacances, bien sûr, si vous en avez, ou au travail. Pour ceux qui bossent en ce dimanche matin, bon courage à vous, et bien sûr, on va vous souhaiter un bon réveillon. C'est la dernière de l'année 2024, donc on va pouvoir se projeter avec nos GG sur 2025, et notamment sur la saison de vélo à venir. Est-ce que ce sera une grande année pour le cyclisme français? On en parle à 11h. Avant cela, le bras de fer GG avec Pep Guardiola, le coach de Manchester City qui est dans le dur actuellement. Est-ce qu'un coach comme lui est invirable? Voilà la question qu'on va se poser, le 32-16, pour nous rejoindre. Sans oublier vos rendez-vous habituels, le zapping des GG avec un nageur qui, il est complètement fou, veut défier Léon Marchand. La punchline de Nikolaï Davydenko, l'ancien joueur de tennis qui ne comprend pas que les joueuses gagnent autant que les joueurs. Et bien sûr, les GG contre-attaque, les grandes gueules qui vont vous proposer dans quelques instants un débat, et vous pourrez aller voter sur le compte X des GG pour votre débat préféré. Le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio, le 32-16, ouvert dès maintenant pour participer au débat avec nos GG. Aujourd'hui, pour cette dernière de l'année, on a une équipe de choc, on est gâté, un GG qui, comme le réveillon du 31, aime bien quand ça brille. Marion Bartoli, salut Marion. Bah, ça doit briller,
amis,
toi.
Comment allez-vous?
Ça va?
Ah oui.
Bonjour.
Je suis sûr.
Salut,
que ça
Marion.
Brille, toi, le 31 décembre chez toi, non?
Ah, il y a pas mal de feux.
Ah, ça brille de partout. Une GG qui, comme le réveillon du 31, on ne le voit qu'une fois dans l'année, mais ça fait toujours plaisir. Ludovic Duchesne, salut Ludo.
Ah, ce qui est rare est bon, hein, donc voilà. on va pas habituer les auditeurs à trop Ludovic Duchesne.
Non, mais si, un peu plus quand même. Mais en tout cas,
finir l'année comme ça, c'est bien, je suis content.
On est ravis que tu participes à cette dernière de l'année. Et comment ça se passe chez les Duchesne, le réveillon du 31?
C'est Noël, calme, c'est plutôt agité. Famille. Après, un petit peu agité quand même.
Ah, un petit peu agité quand même.
Ah, quand même.
On est bien reçu en général, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok, bah, j'espère que tu nous inviteras. Parce que moi, j'ai pas grand chose de prévu, hein, pour tout te dire. Donc,
ça dépend, t'es nombreux ou pas?
Mon plan. Bon, on n'est pas nombreux, une petite famille de 4.
Bon, hein. Voilà.
Ça, t'as bien de la place.
Ça peut se faire, ça peut se faire.
Une GG qui, comme le réveillon du 31, a une bonne descente. Je parle de vélo, bien sûr. Hein. Marc Madiot, salut Marc.
Salut.
Ça va le 31 chez les Madiot? Comment ça se passe?
Ah, c'est plus que c'était, c'est très calme.
Ah bon?
Bah oui. Mince alors. Là, j'ai là.
Je suis sûr qu'on peut quand même trouver quelques
de
petites bouteilles cachées.
Ça, oui.
Ah oui, des bonnes
qualité
bouteilles.
Plus que quantité.
Ah voilà, ça c'est le plus important. Et bien évidemment, avec modération,
évidemment.
On vous le dit, hein, toujours. Et puis une GG qui n'est pas encore là, donc le réveillon du 31, c'est comme pour le réveillon du 31, ça sera peut-être sa dernière. Hein, la dernière de l'année, peut-être la dernière
déjà.
Cours, parce qu'elle commence mal l'émission. Sarah Pitkowski qui va nous rejoindre dans quelques instants, bien sûr. Mais justement, en attendant, les fans de foot, eux, ont peut-être déjà la tête à 2025 et il est peut-être le temps de tourner la page de 2024.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Le football, c'est une pyramide. Donc quand tu secoues la pyramide un peu, ça a des retombées pour les joueurs.
On va effectuer une plongée dans l'univers du football.
DAZN devrait facturer son offre à 40 euros par mois pour que ses clients aient donc accès aux matchs de Ligue 1. 30 euros s'ils s'engagent sur un an. Auquel il faudra ajouter les 15 euros mensuels pour l'affiche manquante qui sera diffusée par beIN Sport.
Hop là, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe.
C'est un calendrier intenable. Le niveau des matchs va forcément baisser. Il est impossible que les joueurs maintiennent leur niveau toute l'année, c'est impossible. Un joueur ne peut pas jouer 60 matchs en une année.
C'est la cata. Le mondial de football 2034 se déroulera en Arabie Saoudite et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Je m'approche. On a conçu une sorte de cataclysme.
Une problématique majeure, les droits humains. 11 stades seront construits, des centaines d'hôtels vont sortir de terre, souvent au milieu de nulle part. Tout cela financé par l'argent du pétrole.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Une aberration écologique.
À cause de l'argent, ce ballon ne tourne plus vraiment rond.
Calmez-vous, Thérèse, c'est une catastrophe.
Je coule autour de moi.
Avec Sarah Pitkowski qui nous a rejoint. Bonjour Sarah.
Bonjour les grandes gueules.
Bah, c'est bien, c'est une dernière de l'année que tu commences parfaitement, Sarah, hein, vraiment.
Écoute, je suis pas mal au sprint. Sur 10 mètres, je suis pas mal.
Bon, t'es même pas essoufflé. Hein.
Ouais, non, franchement, chapeau. Tu es excusé, bien sûr, Sarah. Cette semaine, Odoxa.
J'ai un mot de ma maman.
Un mot d'excuse. Odoxa a publié un sondage. Alors, je sais pas si vous l'avez vu avec Winamax, notamment, sur le baromètre du sport en 2024. C'est le sondage habituel de fin d'année. Et on pose la question aux Français sur les éléments. Les événements qui les ont plus marqués dans l'année. Eh bien, figurez-vous que l'Euro de foot n'arrive qu'en cinquième position. 12% des sondés. Derrière, évidemment, les JO, les Jeux Paralympiques, le Tour de France, le tournoi des Six Nations de rugby, et à égalité avec Roland-Garros et le Vendée Globe. La Ligue des Champions, la Ligue 1, arrive encore plus loin. Les droits télé, vous le savez, cette année, bon, ça a été la catastrophe pour la Ligue 1, quasi invisible désormais. Il y a une équipe de France qui n'a pas vraiment fait rêver les supporters. Des actes de violence aussi dans les tribunes dont on a parlé et aux abords des stades. Mais aussi la FIFA qui a donc donné la Coupe du Monde à l'Arabie Saoudite en 2034 et qui va lancer la saison prochaine sa Coupe du Monde des clubs. Alors toujours plus de matchs, peut-être au détriment de la santé des acteurs. D'où cette question, les grandes gueules du sport. Après cette année noire en 2024, le foot va-t-il dans le mur ? Oui ou non ? Marion Bartoli.
Oui.
Ludovic Duchesne.
Non.
Marc Madiot.
Non.
Sarah Pitkowski.
Il s'y dirige dangereusement, oui.
On a un duel les filles contre les garçons. Ouais. C'est rigolo, ça.
C'est du hasard.
C'est attaque d'entrée.
C'est tennis, vélo.
Alors, ouais. On va commencer justement par une fille. Marion, on t'écoute. Le foot va dans le mur. C'est un grand oui, j'ai l'impression, pour toi.
C'est un grand oui, effectivement. Pour moi, les facteurs sont multiples, mais le problème principal que je trouve, et c'était dit d'ailleurs dans le sujet qu'on vient d'écouter, c'est l'accumulation des compétitions empilées les unes après les autres qui, pour moi, crée une crise existentielle qui n'est pas financière dans le foot parce qu'il y a de plus en plus d'argent, mais qui est réelle en termes des acteurs principaux qui sont quand même les joueurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui se sont exprimés là-dessus, en particulier Rodri qui vient de gagner le Ballon d'Or, qui d'ailleurs a été blessé, qui s'est fait les ligaments croisés. Il y a quand même... Depuis le début de saison, il y a eu plus de 20 joueurs qui ont eu malheureusement pour eux les ligaments croisés dans les grands championnats principaux européens. Je ne parle même pas des autres championnats, dont Rodri, Carvajal, Icardi, Militao et plein d'autres. Il y en a plus d'une vingtaine. Et une fatigue supplémentaire engendrée par cette accumulation de compétitions qui fait que la qualité du jeu produit ne peut pas être conservée parce que ce n'est pas possible. Comme ça a été dit encore, quand vous jouez entre plus de 60 matchs en une année, d'être systématiquement performant et bon tous les week-ends. Aujourd'hui, si vous voulez regarder un match de foot tous les jours, il y en a quasiment un tous les jours. Et pour moi, cette course en avant de vouloir systématiquement rajouter des compétitions, une Ligue des Nations qui sert quasiment à rien, une Coupe du Monde des clubs qui sert quasiment à rien, des matchs délocalisés dans d'autres pays comme PSG contre Monaco qui va se jouer à Doha. Il faut savoir que ces joueurs qui vont jouer à Doha, derrière, ils doivent reprendre l'avion, revenir en France, rejouer dans leur championnat ou rejouer un match de Coupe de France. Ce n'est pas possible. C'est une fuite en avant qui, pour moi, effectivement, va droit dans le mur. Et en plus, alors oui, effectivement, les stades sont pleins, mais la consommation du foot en termes télévisuels, on l'a bien vu sur les droits télé et sur la difficulté qu'a eu la Ligue 1 à signer un contrat pour vendre ses droits de télévision. Aujourd'hui, les abonnements sont trop chers. Il faut trop d'abonnements pour arriver à regarder un championnat dans sa totalité. Et les jeunes qui ont une consommation de la télévision qui n'est pas du tout la même que notre génération, effectivement, n'arrivent plus à s'asseoir devant un match de foot pendant 1h30. Donc, de toute façon, pour moi, économiquement, que ça soit sur la nouvelle génération que le foot essaye de capter, mais il n'y arrive pas. Et sur les joueurs qui ont un ras-de-bol complet, je suis désolée, pour moi, le foot va droit dans le mur.
Alors, la parole à la défense, justement, du foot. Ludo, je sais que toi, tu le commentes et tu aimes ce sport aussi. C'est peut-être pour ça que tu as dit que
c'est
n'allait
pour
pas
ça
dans
que
le
t'es
mur.
Pas objectif.
Et moi, ça me fait pas plaisir de contredire Marion. Franchement, alors je voudrais déjà lui dire que pas tous les joueurs, puisque par exemple les joueurs de l'OM, eux n'ont pas de Coupe d'Europe, donc ils jouent pas 60 matchs ou 70 matchs.
Mais ça lui convient très bien.
Non, mais voilà, c'est juste
petit aparté.
Exactement. L'important, c'est de finir dans les quatre.
Rappelle-moi Ludo qui a été le seul club français à gagner la Ligue des Champions.
Oui, je me rappelle pas. Non, juste pour dire que
t'as la mémoire sélective.
Quand on parlait du sondage au Doxa, je crois, c'est ça. Oui. Je me suis intéressé par quand même aux meilleures audiences de l'année à la télé française. Mm-hmm. Et il se trouve que quand même le foot écrase tout. C'est-à-dire que les deux meilleures audiences, eh bien c'est la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, ça on le comprend. Mais après, les meilleures audiences de la télé, c'est les matchs de l'équipe de France. Dans les 10 meilleures audiences, il y a les 5 matchs de l'équipe de France à l'Euro. Donc ça reste des grands événements. Là où Marion a raison, c'est sur le calendrier. C'est un vrai problème.
Ça va s'autoréguler.
Ouais, il faudra à un moment donné le régler, puisque les joueurs ne peuvent pas jouer 60 ou 70 matchs. Après, sur la Coupe du Monde, je pense qu'il faut.
On peut parler des audiences de Dazone parce que là, tu nous cites des audiences de l'Euro qui sont sur les chaînes publiques.
Oui, qui sont en baisse aussi. Hein. Il faut aussi être honnête.
Ça change tout.
C'est-à-dire que les audiences de l'équipe de France, elles plongent aussi.
C'est un relais. Jusqu'au point où la première chaîne est en train de se positionner pour le tournoi des Six Nations parce qu'ils misent plus aujourd'hui sur une équipe de France de rugby que sur une équipe de France de foot. Donc c'est quand même en train tout doucement de s'éroder.
Du marchandage et du business.
Pardon ?
Pour moi, c'est du marchandage et du business.
Oui, mais
ça va s'auto-réguler.
Mais le problème du foot, c'est qu'il ne repose que sur du business.
Oui, mais il y a quand même un détail qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le foot est l'opium du peuple. On peut se passer de tous les autres sports.
Oui, c'est vrai.
On peut se passer de tous les autres sports, mais le foot reste le foot.
Oui, mais si tu ne le vois pas autant qu'avant,
oui, mais tu vas t'habituer à autre chose. L'équipe de France retrouve un peu d'allant et un peu de compétitivité.
Mais là, on parle des équipes nationales.
Et que Mbappé fasse son retour. Non, mais... Et tu vas voir, le débat qu'on a là, on ne l'aura plus.
Regarde, Sarah.
Les équipes nationales sont des compétitions qui sont mondiales et qui sont suivies par une population qui est mondiale.
Oui, mais et des footix aussi.
Pas sur l'Euro et sur la Coupe du Monde.
L'Euro, la Coupe du Monde, mais les autres matchs, les autres championnats qui veulent être instaurés, le championnat du monde des clubs,
des clubs.
Et tout ça, ça va s'auto-réguler.
Bon, on va voir l'audience, d'ailleurs, de cette
mais
compétition.
Ça va attendons un peu avant de juger.
Ils ont eu du mal quand même à vendre les droits.
On a un regard très européen là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que sur cette Coupe du Monde des clubs,
je vois pas pourquoi,
en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est plébiscité. Ils sont très contents de pouvoir jouer contre le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan, le Bayern ou encore Manchester City.
Oui,
donc je pense que évidemment
mais
le problème.
Mais l'argent du foot se trouve pas en Amérique du Sud. L'argent du foot, il se trouve en Europe et dans les Émirats. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le foot repose sur quoi? Oui, mais le foot repose sur quoi aujourd'hui? Il repose sur les droits télé. Et on sait que les droits télé, et pas uniquement en France, sont en train de s'éroder. Et le foot repose sur des ventes et de la spéculation. Et aujourd'hui, ces deux piliers-là sont en train de s'affaiblir. Donc, cette bulle spéculative qu'on a vue pendant des années...
Ça, sincèrement.
Ça peut pas s'auto-réguler aujourd'hui. Il y a une baisse, puisqu'on a passé notre temps à découper les droits, ce qui fait que quand tu veux
en
regarder...
France.
Oui, mais quoi qu'il arrive, il y a un moment ou un autre, si t'as des championnats qui s'écroulent, il y a un effet domino. Les ventes aujourd'hui, regarde, il y a des cas concrets qui, pour moi, je pense, vont faire des cas d'école. Quand tu vois qu'Mbappé, lui, avait un coup d'avance en disant « J'irai au bout de mon contrat, je veux partir sans transfert », ce sont des choses qui vont arriver. Les clubs gagnent de l'argent comment ? Ils gagnent de l'argent avec de la spéculation, c'est-à-dire en prenant un jeune ou en prenant un joueur qui vont revendre plus cher. Oui. On est d'accord, mais aujourd'hui, si les joueurs vont au bout de leur contrat...
Ils ont le droit.
Ils ont le droit. Mais donc le club ne va pas pouvoir récupérer de l'argent. Vous avez le cas de la Sana Diarra. Larry Bosman, ça a 30 ans. C'était sur la libre circulation des joueurs. Mmh. En tout cas, des travailleurs salariés. Aujourd'hui, la Sana Diarra a gagné, grâce à la Cour européenne de justice... son procès face au locomotive de Moscou. En fait, ce sont des cas qui, aujourd'hui, vont réfléchir, vont affaiblir économiquement des clubs. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, par rapport, si je compare au rugby, dans le rugby, on a encore des chefs d'entreprise qui sont propriétaires des clubs. En France, la Ligue 1, ce sont des fonds d'investissement. Eux, ils sont pas là pour faire de la philanthropie. On est d'accord? Ils sont là pour gagner de l'argent tout de suite. Donc, si à un moment, les droits descendent, si à un moment, on ne peut plus vendre les joueurs comme on faisait, l'équilibre financier de ces clubs-là, comment vont-ils se faire? Il y a un moment, tout va s'appauvrir. Et il va y avoir des championnats très élevés, puis il va y avoir la.
Oui, c'est ce qui va se creuser.
Et ça, c'est dangereux, en fait.
Les fonds d'investissement dont tu parles, leur intérêt, c'est aussi que ça marche. Alors, ils sont pas
mais
là, c'est pas des philanthropes.
Mais t'as raison, il faut que ça marche vite.
Il faut que ça marche, Sarah. Quant aux droits télé, je rectifie quand même. Si en France, ils ont été divisés par deux, par trois ces dernières années, parce que je pense que ça a été mal ficelé et mal présenté, il faut dire que en Angleterre, en Allemagne et en Italie, où les droits viennent d'être renouvelés, ça n'a pas baissé. C'est stable et à un très haut niveau, et on parle du milliard par saison dans ces pays-là. Donc ça ne baisse pas. Le calendrier, c'est un vrai problème.
Oui, mais la vente, elle est toujours pareille.
La Coupe du Monde en Arabie Saoudite, il faut laisser la chance au produit. Au Qatar, on a beaucoup critiqué. Ça a très bien marché.
Oui. Là, on est d'accord.
On peut penser qu'en Arabie Saoudite, où ils se donnent encore plus de moyens, ça marchera sans doute bien. Le championnat du monde des clubs.
Ça participe pas à la sérénité du du foot des clubs. Ce que je veux dire là, on parle d'une Coupe du Monde. Elle va générer des bénéfices, mais elle va pas aider le club du bout du monde qui lui peut pas payer ses joueurs.
Non, c'est déjà le cas, Sarah.
Oui, mais c'est pour ça que je dis c'est déjà le cas. Oui, mais
il va y avoir un foot forcément plus en danger.
Il va y avoir un foot à deux vitesses.
Hein. On oublie aussi les fans de foot là-dedans. Là, vous parlez effectivement beaucoup d'argent. Vous parlez des joueurs, des clubs.
C'est où regarder.
Ah bon.
Le fan, il en a pas marre peut-être.
Bah de se dire déjà, moi je dois payer si cher pour regarder les matchs. Peut-être comme le disait Marion.
Pour ce qui l'intéresse.
Bah oui, mais qu'est-ce qui l'intéresse?
La nouvelle génération de fans ne regarde plus le foot. Ils peuvent plus.
C'est intéressant ça.
En France. Et regarder les matchs comme nous pendant plus d'une heure trente. Les gamins, ils sont sur TikTok, ils vont sur le réseau social de leur club
D'ailleurs, 32-16, s'il y a des jeunes là qui veulent nous rejoindre.
Devant une chaîne. Pourquoi les audiences de DAZN sont catastrophiques? C'est qu'aujourd'hui, la nouvelle génération ne consomme plus le football comme nous on le faisait il y a 20-25 ans.
Oui, mais je pense que DAZN a mal abordé le sujet. L'affaire est partie bancale d'entrée de jeu, donc c'est normal que ça ne redécolle pas. Mais je pense qu'il y aura une redistribution des cartes. Et le championnat, qu'on le veuille ou non, même si le championnat de France il est un ton en dessous de ce qu'est l'Angleterre ou l'Espagne, le championnat de France reste le championnat de France. Il y a une culture du club de niveau moyen en France qui est quand même intéressant on va retrouver à un moment ou à un autre, ça va se rééquilibrer.
Non,
moi, je suis pas inquiet.
Alors, raison, Marc, et on découvre pas que les réseaux sociaux s'adaptent aussi. Par exemple, Marion parlait du foot. Je suis désolé, aujourd'hui, t'as un autre opérateur qui propose des résumés, les buts en temps réel. Voilà, Marion, les jeunes, ils vont chercher ça. Et ça existe déjà.
Oui,
après, que DAZN soit caché et que personne n'arrive à finalement à s'abonner parce que c'est trop cher, etc. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est la Ligue qui s'est plantée. Mais ça, c'est la France. Mais dans les autres pays.
Mais c'est 480 millions que tu vas chercher. Si aujourd'hui, tu n'as pas un diffuseur officiel qui diffuse tes matchs. Je sais très bien que la Ligue ne peut pas avoir un championnat. Donc, de toute façon, d'avoir aujourd'hui un diffuseur qui n'est pas capable d'attirer un public suffisant, c'est comme exactement nous en tennis.
C'est trop cher.
Amazon et la Fédération française de tennis avaient fait ce pari avec Amazon. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'Amazon a été capable à la fois de proposer une offre qui était cohérente par rapport à France Télévisions, est-ce que France Télévisions, qui était un diffuseur historique de Roland Garros, était capable de proposer, et les gens se sont intéressés à ce qu'Amazon diffusait, et chaque année les audiences augmentent.
Parce qu'il y a toujours aussi du clair.
Si t'as pas un diffuseur en Ligue 1 qui est capable d'attirer, de continuer à garder un certain public, les gens vont finir par se désintéresser. Je te dis, c'est un gavage.
Bah, il y en a.
Aujourd'hui, la Ligue 1, ça commence vendredi, ça finit dimanche. Lundi, t'as toujours un match de Serie A qui traîne. Mardi, t'as la Champions League qui attaque et mercredi, pareil. Jeudi, sur l'Europa League et vendredi, tu repars.
Mais c'est vrai.
Tu as ce gavage permanent.
Oui, mais tu regardes ce qui t'intéresse.
C'est trop.
Alors.
Auparavant, les audiences étaient bien meilleures parce que tu t'assieds devant un match qui était
assez rare. Parce qu'il y avait moins de matchs.
Alors, les amis.
On va continuer le débat.
Le débat n'est pas terminé. On va continuer le débat dans un instant avec vous, bien sûr, et avec vous au 32-16. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis des fans de foot là qui nous écoutent, qui nous appellent. Est-ce qu'ils sont un peu déçus, dégoûtés du football ou pas d'ailleurs
aussi.
Est-ce qu'ils vont au stade?
Alors, de plus en plus, ça, c'est une bonne remarque. Voilà.
C'est bizarre, pas sauf au PSG, parce que là, tu trouves de la place au PSG.
On débat dans un instant avec vous au 32-16. On continue le débat sur le foot, va-t-il dans le mur, et notamment en 2025. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
On est reparti dans les grandes gueules du sport jusqu'à midi. Vous l'avez entendu en direct. Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Marc Madio, Ludovic Duchesne pour la dernière de l'année. Dans un instant, il y aura le zapping des grandes gueules du sport avec au programme Popovici, le champion olympique du 200 mètres nage libre, qui lance un défi à Léon Marchand qu'il vient de l'affronter sur sa distance de prédilection. C'est soit courageux, soit complètement inconscient. Mais d'abord, la suite de notre débat sur le foot. Est-ce qu'il va dans le mur? Quelques petites réactions, tiens, sur l'appli RMC Direct Studio. Avec Alice Sepp qui nous dit « J'ai moins de 30 ans, je suis d'accord avec Marion, je ne regarde plus le foot, mais uniquement grâce à vous RMC qui commente le foot. » Donc merci.
Voilà, supporter de l'OM,
peut-être.
Ah oui, mais quand t'as Jeanne Auré Seguier, c'est pas vrai, j'écoute.
L'OM, on n'est pas embarrassé avec les matchs, il n'y en a pas beaucoup.
Oui, mais ils sont de qualité.
C'est sûr qu'à Laval, effectivement, il y en a aussi énormément.
Exactement.
Oui, la Ligue 2, ça marche bien.
Ça marche bien, la Ligue 2 à Laval. Ça marche
à fond. Le rapport qualité-prix est de qualité.
Ouais, c'est clair.
Et puis, Clément qui nous dit « Je peux comprendre le malaise des joueurs. Le sport de très haut niveau est extrêmement difficile, mais ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils ne sont pas obligés d'accepter de tels salaires. Ils peuvent jouer dans des clubs de moindre importance. »
La remarque de Sarah était...
Les joueurs ont demandé une baisse de salaire pour jouer moins de matchs. Et Rodri a proposé même faire une grève.
Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Ça, pour le coup, on est d'accord. Après, la remarque de Sarah était très intéressante, mais elle va pas dans son sens. Donc, je suis désolé. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de monde dans les stades.
Non,
et ça, c'est
non,
une vérité.
Je peux pas dire ça.
Bah, que je te donne des chiffres.
Alors, moi, je vais te donner
les chiffres
du Grand Ouest.
C'est les chiffres de la Ligue. Ouais. Cette année, par exemple,
ils te disent ce qu'ils veulent, la Ligue. Il faut aller voir dans les stades.
Non, Sarah, voilà, je veux bien qu'on dise que tout est truqué, mais enfin, tu comptabilises les gens qui rentrent dans les stades. Il y a 27 600 supporters en moyenne dans les stades. Ça concerne les 18 clubs de Ligue 1. Et tous les ans, ça monte. Tous les ans. L'année dernière, il y en avait 26 600. C'est-à-dire qu'il y a 1000 supporters de plus par match dans les stades.
Attends, là, donc, tu prends la moyenne générale
en Ligue 1.
Sur la Ligue 1. Oui, mais ça dépend des clubs qui montent et qui descendent aussi.
Oui, parce que tu vas à Rennes ou à Nantes, c'est moins 15%. C'est moins 15% de fréquentation.
Ils sont pas au top non plus. Hein.
Mais oui, mais donc ça veut dire que tu remplis ton stade quand tu gagnes.
Oui, mais parce que comme on peut pas le voir à la télé, forcément, il faut se déplacer.
Non, mais parce que c'est un spectacle qui plaît, parce que les gens aiment toujours ça. Par rapport à notre débat, est-ce qu'il va dans le mur? Moi, je dis non, parce que comme l'a dit Marc, ça reste le sport numéro un, ça reste même le seul sport qui est vu par tous les gens.
Mais on n'a pas dit ça.
Et que la Ligue 1 est un bon championnat.
Mais on n'a pas dit que la Ligue 1 est un mauvais championnat, et on n'a pas dit non plus que le foot n'était plus le sport numéro un. C'est qu'aujourd'hui, il y a une érosion, et que pour moi, de mon point de vue, l'équilibre financier, il y a un moment, ça va plus pouvoir se faire.
Sarah, toi, t'es en Bretagne. Comment tu peux dire ça quand on voit Brest, ce que fait Brest cette année?
Non, mais d'accord, qui est vraiment
exceptionnel en Europe. Okay. Non, mais excuse-moi.
Même Lille.
Je suis allée voir des matchs à Lille. Effectivement, le stade était plein. Mais il était plein parce que je suis allée voir un match de Ligue des Champions. Là,
Lille, ils sont en plein quand même. Ils font une très très
bonne saison. Oui, ils sont souvent pleins. Ils sont souvent pleins.
Franchement, Lens, c'est plein tout le temps. T'as des stades qui sont Saint-Étienne, Lyon, t'as des
Mais en attendant, justement, à oublier ses fans, c'est ce qu'on est en train de dire.
Marseille aussi, c'est tout le temps plein.
Marion, et après, on va prendre Claude et Alice parce qu'il y a beaucoup de monde au 32-16.
La ville ne vit que pour le foot. Tu peux pas prendre l'exemple de Marseille. Il serait même en national que le stade serait plein. Donc ça ne peut pas prendre cet exemple-là pour être.
Ça peut arriver.
Le problème de la Ligue 1, aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien pourquoi la Ligue 1 fondamentalement a eu du mal à re-signer ses droits TV. Parce qu'il n'y a plus de stars.
Alors, quand il y en avait, ça déséquilibrait le championnat. Maintenant, quand on n'a plus, on n'en a plus.
Mais ça, c'est ceux qui comprennent un foot qui ont dit ça.
Et pour aller plus loin.
Ce sont les stars qui font venir, qui font venir les droits TV.
Marion, c'est en train de me dire que.
Et Sarah a pris le très bon exemple du PSG. Pourquoi aujourd'hui le PSG a du mal à remplir son stade? Messi,
je sais pas quelle chaîne vous regardez pour le coup parce qu'ils sont à guichet fermé.
Mais non, Ludo, arrête de dire ça.
Ils sont à guichet fermé. Le seul critère, c'est le prix des places. Voilà pourquoi certains n'y vont plus ou n'arrivent pas à vendre leur abonnement.
Je vais donner la parole à Claude, s'il vous plaît, qui a fait le 32-16. Juste quand même. Pour aller dans le sens de Marion, là où je suis un peu d'accord avec elle, c'est que le foot a besoin de stars. Et au-delà des stars dans le championnat, des stars dans le foot, comme Messi et Ronaldo, c'est une période où, malheureusement, on les cherche un petit peu plus. Voilà, quand il y avait Messi et Ronaldo, le Classico, le Real-Barça, c'était un événement international. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Voilà, donc il faut aussi des stars dans le foot, évidemment, pour que ce football se développe. Bah oui, mais c'est une évidence, mais en même temps,
mais le foot, on est dans une période où il y en a moins. La Ligue 1 existait avant Messi, existait avant Neymar, existait avant Mbappé, pardon pour le dire. Et il y avait déjà des bonnes audiences, et ça marchait déjà. Et les droits TV étaient plus élevés à l'époque où il y avait pas encore Ibrahimovic et il y avait pas encore QSI le Qatar. Pardon.
Claude, au 32-16. Salut Claude.
Salut les grandes gueules. Salut.
Alors, on t'écoute parce qu'on a fait un appel justement à témoignage sur cette histoire du foot. Le foot va-t-il dans le mur? Toi, tu es restaurateur, hein, c'est ça?
Ouais.
Donc tu constates peut-être des choses.
Bonjour à tout le monde. Ouais, voilà, je suis restaurateur. Je diffuse tous les événements sportifs dans mon établissement. J'ai 8 écrans, j'ai 5 box. Wow. J'ai plein d'abonnements, j'ai 3 abonnements de Canal+.
Ça, c'est l'investissement.
Oui, c'est l'investissement, mais bon, je vais vous donner un exemple. Là, j'ai été contacté par DAZN Pro. Ils me demandent pour les matchs de Ligue 1 diffusés dans mon établissement, 199 € par mois pour diffuser les matchs, où il n'y a plus personne qui vient voir les matchs. C'est hallucinant.
Exactement.
Ce que je disais tout à l'heure au standard, c'est que que le football, c'était la messe du dimanche soir sur Canal, il y avait encore cet engouement. Là, les gens sont perdus. Exactement. Il y a des matchs qui sont sur Bein, il y a des matchs qui sont sur DAZN.
Vous êtes où? Vous êtes où aussi?
C'est ce que je dis tout à l'heure.
Il est où, Claude?
Vous êtes où, Claude?
Ouais, je suis à Chamonix en Haute-Savoie. Et d'ailleurs, je reviens sur ce qu'a dit Marion. Depuis qu'il n'y a plus les stars au Paris Saint-Germain, même les matchs de Ligue de Champions, j'ai du mal à faire le plein dans mon établissement. franchement, c'est
oui, vraiment. Mais alors, est-ce que c'est pas parce que vous habitez à Chamonix?
Intéressant.
Le
FC Chamonix, qu'est-ce qu'il fait?
Non, rien à faire. Moi, je vais donner un exemple. Ce sont les Anglais. Les Anglais, ils viennent passer 4 jours, 3 jours, 5 jours au ski. Eh ben, le samedi ou le dimanche, c'est la messe du samedi ou du dimanche, ils viennent voir. Exactement. La première ligue. Eh oui. Et les gars, ils arrivent, c'est 14h.
Eh oui.
Le Boxing Day. Le Boxing Day, de 14h à 23h. J'ai eu que des Anglais qui regardaient les matchs alors qu'ils sont là pour 3 jours pour faire du ski. Ils ont payé les forfaits, ils ont payé leur voyage, ils ont payé leur hôtel. Les gars, ils ratent pas. Excusez-moi, en France, ça n'existe pas. Et la dernière chose que je veux dire, c'est le foot italien. Ça n'existe plus. Oui. Le foot italien est devenu invisible. Alors, c'est sur l'équipe TV, sur l'équipe Internet, on ne peut plus le voir. Il y a des gens, moi, qui me disent où est-ce qu'on peut voir Roma, Juventus, Milan, Naples.
Il faut écouter RMC. Ouais, Claude.
Claude n'a pas tort.
Je suis complètement d'accord, Claude, bravo.
Claude n'a pas tort. Que Canal manque à la Ligue 1, c'est pour moi une évidence, parce que les gens avaient l'habitude du produit, de la qualité, commentaires, etc., etc. Donc, effectivement, ça manque, ce rendez-vous manque, et notamment, comme dit Claude, le rendez-vous du dimanche soir qui était sacré. Mais en Ligue 1, qui a été sacré pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, en France, c'est vrai, mais c'est très compliqué. Mais ça n'a rien à voir avec le football. C'est juste des diffuseurs qui ont été choisis par la Ligue et qui diffusent les matchs sur toutes les chaînes.
Mais c'est compliqué. C'est un écosystème complet.
Ludo,
le diffuseur fait complètement partie de l'écosystème d'un sport.
Ludo qui a travaillé à Canal. Mais tu veux peut-être y retourner. J'ai l'impression que là c'est un petit.
Non, je suis bien ici.
T'es bien, okay. On va remercier Claude en tout cas de Chamonix d'être passé. Et c'est le club des sports de Chamonix-Mont-Blanc. Voilà, pour être exact, le club de foot de la ville.
Il y a une équipe de foot alors.
Bah, arrête.
À quel niveau?
Non, bravo, mais attends, c'est pour. Claude, c'est pour
à quel niveau
le. Cinquième division de district.
Ah, voilà.
Merci Claude.
Allez, Chamonix.
Ouais, merci.
Et bonne fête à toi, Chamonix, bien évidemment. Alice est avec nous au 32-16. Bonjour Alice.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis un peu, impressionné, parce que c'est la première fois que j'ai
appelé. C'est la première fois, écoute, bienvenue.
Et je vous écoute depuis ma tendre enfance, parce qu'avec le temps, même, on en a discuté avec ma mère, les commentaires sont un peu plus intéressants en radio et surtout, vous avez un peu plus tous les matchs, tous les siphons en sport, et que je me souviens même les commentaires à la télé, pour moi c'était blanc souvent, alors que bien que s'il y avait des temps morts sur un match, un autre était, commenté en même temps. Et j'avoue que les dernières fois que j'ai vu des matchs, c'était comme évoqué la personne juste avant, c'était dans des restaurants avec des collègues, et c'est vrai que, on ne regardait que de temps en temps, quoi.
Oui, alors voilà, c'est un constat aussi. Alice, toi, tu es fan de foot?
Je suis un peu rigolo, je supporte plusieurs clubs de foot en même temps.
Ah, d'accord.
Et oui, c'est un peu original, mais bon, qu'importe. Mais c'est vrai que, j'écoute la radio très régulièrement pour pour m'occuper, surtout rouler. J'adore écouter.
Et le foot féminin, alors, Alice?
Oui, je suis de Lyon, donc je suis de aussi. Après, je me souviens pendant l'été 2019, je me souviens plus. Je suivais la Coupe du Monde féminine, mais c'est vrai qu'on en parle assez peu. Mais bon, après, qu'importe. Hein.
Ça se développe.
Exactement.
Ludo, il commente, voilà. Mais en tout cas, on note que toi aussi, le foot, c'est un peu plus difficile de le suivre. C'est le constat qu'on fait beaucoup, d'ailleurs, sur la
musique
des studios, évidemment. Ouais. Et ça pose un problème. Ça pose un gros problème pour le foot.
Il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé et qui fait du mal au foot, ce sont les violences dans les stades aujourd'hui, qui ont, mine de rien, une incidence aussi sur le fait de garder un intérêt, sur l'image, de garder un intérêt, de venir au stade. Donc en fait, il y a quand même des...
Dépend quel stade, toujours pareil. Mais c'est souvent dans les mêmes stades. Enfin,
j'étais sûr que t'allais me ressortir Brest.
Non mais Brest, il y a pas de problème.
On ne joue pas au foot qu'à Brest.
Peut-être
comme dans le rugby, c'est un sujet.
La vision qu'on
peut
avoir,
ça reflète aussi la société. On voudrait pas non plus que dans les stades il ne se passe rien, même si on le condamne et on
fortement. Mais c'était ta contre-attaque d'hier, t'imagines? C'était ta contre-attaque d'hier.
Sur
les violences.
Sur le petit Mussolini
dans les stades. Aujourd'hui, ça reflète la société. Donc, on ne peut pas dire que le foot va bien, en fait.
Bah, le
que
foot fait partie de la société, donc oui, mais, malheureusement.
Mais, donc, il y a le foot ne va pas
le
bien.
Le foot va mal, mais le foot va se régénérer. Il va se régénérer, vous n'inquiétez pas.
Oui. Comment alors
il va se régénérer parce que l'intérêt de tout, c'est que le business redémarre. Et pour que le business redémarre, il y a des solutions qui seront trouvées. Je suis presque sûr qu'à un moment ou un autre, Canal va revenir dans la danse pour rediffuser de la Ligue 1.
Mais on n'a pas envie plutôt de ne plus parler de business quand on parle de foot. Je pense que les fans, ils en ont marre.
On parle pas de business.
Mais
je retourne chez les bisounours, mais c'est pas grave. Parce que le fan, c'est ce qu'il veut. Il en a marre qu'on lui parle de business quand on lui propose la Coupe du Monde en Arabie Saoudite.
Mais non, ça c'est un faux problème.
Il pense que c'est uniquement pour le business. C'est uniquement pour le business, Marc, la Coupe du Monde en Arabie Saoudite.
C'est eux qui ont les sous. François, c'est eux qui ont les sous.
Mais bien sûr, mais c'est juste pour le business.
Et pourquoi l'Arabie Saoudite n'aurait pas droit au foot?
Si, bien sûr qu'elle a droit.
L'Europe pendant des dizaines d'années.
Il faut pas que ça soit que le business qui compte.
Pendant des dizaines d'années, se sont gavés du foot.
Il
n'y
a que eux qui peuvent organiser.
Les pays du Golfe ont le droit aussi.
L'Arabie Saoudite, avec un nombre d'équipes incroyable, on va plus rien comprendre. Ça va avoir lieu en Arabie Saoudite avant de revenir en Europe.
Il y aura quand même un champion du monde.
Et regarde, t'as des grands événements en Arabie Saoudite. T'as la Formule 1, t'as le
Ballon. Mais je parle pas de l'Arabie Saoudite. Je parle du business autour de cette
équipe. Aujourd'hui, c'est eux qui ont l'argent. Le tennis, des exhibitions.
Quand c'était l'Europe qui avait l'argent, on venait pas. On s'inquiétait pas pour les autres.
Il y a pas que des exhibitions.
Bon, très bien. On vous mettra pas d'accord. De toute façon, sur ce débat,
je crois qu'on a gagné avec Marc.
Non, il n'y a pas de vainqueur, je pense.
Je pense que c'est nous et largement.
Bravo,
absolument. Allez,
on continue les grandes gueules du sport. Le business l'a emporté. Le business, messieurs. Dans un instant, le zapping des grandes gueules du sport avec des stars dedans. Tiens, on va continuer de parler business, mais on va parler de Wembanyama, de Léon Marchand et de rugby. A tout de suite sur RMC. Vous restez avec nous. On revient dans moins d'une minute.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 9h44 sur RMC, ravi de vous retrouver pour les grandes gueules du sport. Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne, Marc Madiot, Marion Bartoli pour cette dernière de l'année 2024. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés très nombreux en podcast cette année. Et on espère battre des records en 2025. Bah oui, le business, hein, toujours. À 10h, ce sera le bras de fer des grandes gueules du sport. Alors que Manchester City joue aujourd'hui, Pep Guardiola n'y arrive plus. Est-ce qu'un coach comme lui est invirable? Les GG ont choisi leur camp. Vous allez dès maintenant sur le compte X des grandes gueules du sport pour choisir le vôtre. Mais d'abord, c'est l'heure du zapping.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Alors le principe, vous le connaissez, je vous donne des actus de la semaine, ça vous plaît, vous pouvez parler, vous vous en foutez, alors vous passez votre tour. On va commencer donc par ce champion olympique du 200 mètres nage libre qui veut défier Léon Marchand sur sa distance. On s'en fout pas, Marc Madiot.
On s'en fout pas, et puis il a bien raison de le faire.
Ludovic Duchesne.
Ouais, je m'en fous pas.
Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Ma Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas non plus.
C'est arrivé.
Je pense qu'il y a une spéciale Moscato Show demain. François,
c'est la fin de l'année.
Ça va être dur, hein, François, demain.
Popovic qui a lancé un défi à notre Léon Marchand national, l'affronter sur le 200 mètres nage libre, la distance sur laquelle le Roumain a été sacré champion olympique cet été. On va l'écouter, justement, David Popovic au micro de l'équipe.
Allons-y Léon, je suis toujours prêt pour plus de compétition et je suis sûr qu'il serait un grand nageur sur le 200 mètres nage libre. C'est impossible qu'il ne le soit pas. Il serait aussi bon qu'il l'ait dans les autres épreuves. J'ai hâte, parce qu'en dehors de la piscine, tout est question de fair play, d'amitié et de respect. Ce n'est qu'une fois que le chronomètre démarre et que vous plongez dans l'eau, que vous pouvez vous battre comme des chiens. Je pense qu'un bon athlète doit toujours être ouvert à des adversaires plus nombreux et plus forts.
Il a bien raison, tu nous dis, Marc.
Oui.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que ça va faire du business et puis mais oui, non, mais ça me fait penser à la boxe. Ça me fait penser à la boxe où quand on est champion incontestable dans sa catégorie de poids, on monte d'une catégorie pour aller faire du business. Ben là, on est un peu dans le même système et dans la même logique. Bon, et il a bien raison parce que ça va générer un intérêt. Qui dit intérêt dit business. Voilà. Oui.
Et puis en plus ça va avec, je crois, Léon Marchand qui a peut-être envie de se tester aussi
sur
la nage libre.
S'il reste dans son confort de distance et de nage qui lui convienne, il va à un moment donné, il va stagner dans sa situation. Alors que s'il se met en danger en allant sur le terrain d'autres stars, il va gagner en
en notoriété et en business.
Ce qui l'intéresse, on voit bien qu'il il refuse d'aller sur certaines compétitions parce qu'il se préserve. Et lui, peut le faire, contrairement au joueur de foot. Il peut dire, non, là, j'y vais pas, là, je la fais pas, parce que c'est un homme de défi et que ce genre de défi, vraiment, peuvent l'intéresser. Ça dit aussi la dimension que Léon Marchand a prise en quelques semaines. C'est le champion ultime.
Oui, mais s'il reste sur ses distances de prédilection et qu'il ne se met pas en danger, ça va s'effriter tout ça.
Ouais, mais le fera, je pense.
Il y a beaucoup de reportages hein, sur Léon Marchand. Je crois que je les ai quasiment tous regardés. Et ce sportif est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'ils font, parce que la natation, c'est pas très fun quand même de compter les carreaux. Enfin, c'est très compliqué de pas avoir des coups de mou et vraiment d'être dans des états. Je vais y aller, hein, dépressif. Florent Malonneau le dit et Léon Marchand le dit. Il dit si c'est pas fun, j'arrive pas à nager vite. Et d'ailleurs, Léon disait, il part en Australie hein, pendant plusieurs mois. En fait, il a besoin de se régénérer, d'aller chercher quelque chose pour lui donner envie d'aller s'entraîner. Mmh. Et ce genre de défi lancé par d'autres nageurs, je pense que ça correspond totalement à la mentalité dont lui a besoin pour se challenger. Et c'est vachement bon pour la natation, parce que c'est ces histoires-là qui nous font envie. Tiens, prochain championnat du monde, un tel a défié un tel, on va avoir envie de les suivre parce qu'il y a une sorte de challenge à distance. Donc je pense que même pour la natation mondiale, c'est génial d'avoir ces petites phrases. Et je crois que pour un nageur, de changer de discipline, ça doit être vraiment très motivant, parce qu'encore une fois, c'est pas un sport fun à faire tous les jours. Hein. C'est extrêmement difficile.
Marion, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais pour moi, encore une fois, Popovici, effectivement, il est lui sur sa distance de prédilection, sur sa nage. Après, comme c'est nage libre, bon, peut-être qu'on va voir Léon nous faire de la brasse ou du papillon, on sait pas.
Je pense que
comme Sarah l'a dit, je crois surtout après avoir vécu des moments aussi forts sur une Olympiade dans son pays, avoir eu autant de succès et d'être vraiment, avoir été propulsé dans quasiment tous les foyers français, Léon a besoin de se lancer de nouveaux défis, il a besoin de se dire, bah tiens, là, c'est pas ma distance forcément de prédilection, c'est pas ma nage la meilleure. Allez, je vais aller chercher ce défi-là parce que ça m'intéresse. Et je pense que, justement, Bob Bowman aussi sait très bien comment gérer ça. Il a su le faire avec Michael Phelps, qui a eu aussi des moments un petit peu dépressifs, qui a su aussi le relancer. Et je pense que pour Léon Marchand, de se dire, bah il y a un autre champion qui me lance un défi, tiens, ça m'intéresse, tiens, ça me touche un petit peu à l'ego et j'ai envie d'y aller. Ça peut être justement une très belle façon pour lui de se lancer de nouveaux défis.
Pour rebondir sur ce que dit Marion, on se rappelle de son défi au jeu d'enchaîner 200 mètres brasse, 200 mètres papillon. Ça n'avait jamais été fait. Le gars, il le fait, il gagne. Mmh. C'est un gars de record et de défi.
On va passer à une deuxième info. On va voir si ça vous intéresse ou pas. Toulouse, qui reçoit le Stade français en top 14, c'est aujourd'hui. Dernier match de la 13e journée du top 14, parce que le rugby, vous le savez, continue pendant les fêtes. Et c'est en direct sur RMC. Avec le risque de prendre une belle valise. On s'en fout, on s'en fout pas. Sarah Pitkowski, j'ai réussi.
Ni l'un ni l'autre, on attend de voir. Contre Toulouse aujourd'hui, te prendre une valise, c'est assez fréquent. Hein.
Ludovic Duchesne.
Non, les sports mineurs, ça m'intéresse.
Marion Bartoli.
Non, je m'en fous pas.
Marc Madio.
Allez, je m'en fous.
Toulouse, Stade français, donc ce soir 21h05, rencontre déséquilibrée évidemment entre une équipe de Toulouse qui met des raclées à quasiment tout le monde en ce moment et un Stade français en souffrance. En plus, le match aura lieu au Stadium à Toulouse à guichet fermé. Hein, les stades là, pour le coup, font le plein pendant cette période des fêtes.
Le rugby va dans
le
mur.
En top 14.
Le Stadium fait le plein en football. Le TFC cartonne, mais vraiment au niveau de ses supporters.
Arrête deux secondes avec le foot.
Le Stade français va faire tourner. Toulouse. Mais bon, écoutez Laurent Labitte, le directeur du rugby au Stade français, il a prié. Voilà la technique pour éviter la valise.
Il y a 4 jours, je n'ai pas le temps d'aller à Lourdes, mais on va quand même beaucoup prier autour du sapin. Et le match est au Stadium. Donc on sait ce que ça représente pour eux quand ils déplacent les matchs là-bas. On va être, en tout cas, essayer d'être au meilleur de notre possibilité. Et ensuite, eh ben aujourd'hui, on est surtout dépendant du niveau de Toulouse.
Voilà, donc Marc, toi, tu t'en fous pas. Ça donne pas honnêtement envie vraiment de voir forcément ce match parce qu'on sait déjà ce qui va se passer, en gros.
Je m'en fous un peu.
Ah, il s'en fout, non, pardon, Marc. Non, t'as pas le droit, non, tu parles pas.
Bah non, c'est ce que je
pensais. Qui est-ce qui s'en fout pas là? C'est Marion qui s'en fout pas.
Moi.
T'es la seule, vas-y alors.
Non, parce que. Bon. Non.
Pardon, déjà, Marc, oui, je te laisse tranquille.
On a fait souvent ces débats dans les grandes gueules avec Toulouse et parfois un petit peu son ego. Ça fait beaucoup rire Vincent qui se moque à chaque fois de Toulouse. Moi, j'adore cette équipe. J'adore voir Toulouse être sur la scène européenne, dominée. Et puis, voilà, s'ils en mettent 70 ou 80, ça reste quand même une très belle performance. Donc, bien sûr qu'on va regarder. Bien sûr que c'est intéressant.
Et il y a un grand show en plus d'après-match avec un ballet de drones et un grand spectacle pyrotechnique pour tous les spectateurs
toujours
de la rencontre.
Business, François, les cheerleaders.
Mais ça, j'aime bien. Ça, moi, tu sais, les feux d'artifice, c'est quand même de l'émotion. Donc, ça va, ça passe. C'est pas que du business. Alors, tiens, on va parler peut-être des nageurs français qui se plaignent de la qualité de leur médaille au jeu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On s'en fout pas.
De bronze.
Voilà. Sarah Pitkowski.
J'ai pas grand chose à dire. Okay, j'ai lu l'info, mais bon.
Ok, ça t'intéresse pas. Marion Bartoli.
Mais non, ça m'intéresse.
Marc Madiot.
Oui, là, ça m'intéresse.
Ludovic Duchesne.
Non, toujours pas.
Alors, c'est Johan Ndoye-Brouard et Clément Seki, médaillés de bronze au JO en natation, qui ont posté sur les réseaux sociaux des photos de leur médaille très abîmée, avec la légende peau de crocodile pour l'un, Paris 1924 en rigolant pour l'autre. Des médailles qui ont perdu leur couleur, on les voit un peu oxydées, un petit peu écaillées. Un défaut de qualité déjà pointé par d'autres adeptes et Paris 2024 a répondu déjà à l'époque que les médailles allaient être remplacées systématiquement.
Il y a un service après-vente.
Voilà, visiblement il y a d'autres médailles qui vont être envoyées.
C'est quand même un peu dommage d'arriver à cette situation parce que La valeur pour l'athlète de la médaille, c'est celle que l'on reçoit au moment du protocole. Si deux mois ou trois mois après, on est obligé de faire un échange de la médaille parce qu'elle s'est dégradée à vitesse grand V, enfin, je trouve que ça le fout mal quand même.
C'est
pas terrible.
C'est pas terrible pour les athlètes aussi, Marion.
Non, c'est surtout pas terrible pour l'organisation. Et puis, je trouve qu'on s'est un peu fichu de la figure des athlètes, je trouve, sur ce coup-là.
Parce qu'elles étaient belles, quand même, ces médailles.
Au premier abord, elles sont belles. Puis, 15 jours après.
Après, c'est pas ce qu'ils en font, Peut-être qu'ils prennent.
Ils
vont dans la piscine avec.
En fait, ils ont peut-être tout mis sur les médailles d'argent, les médailles d'or et la médaille de bronze.
Non, mais ça fait le championnat de district, quand même.
Ah oui,
c'est la médaille du district quand tu gagnes, tu sais.
Elle est très dégradée, Marion.
Pas terrible.
Exactement, c'est quand même une image pour Paris 2024 qui est quand même assez catastrophique.
Il y a autre chose qui m'a choqué.
On est quelques mois après.
Sur les JO, il y a un autre truc qui m'a choqué, c'est que je suis allé au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines il y a quelques jours. Il n'y a plus aucune trace du passage des JO.
Ah bon, on a vite tourné la page.
Fou quand même qu'il n'y ait pas, ne serait-ce que quelques anneaux,
c'est vrai
au moins l'entrée du Vélodrome.
Ça.
Il n'y a plus rien.
Ouais. Non mais c'est vrai que c'est surprenant ça. Parce que
c'est dingue, hein.
On a eu pas mal. Non, on n'a pas eu de médaille.
Ah, ça mériterait un débat.
Bon.
Si, on a une médaille.
Si, on a une médaille sur la piste.
Bah, si, sur la piste, on en a
mis. Ah oui, quand même. Oui, mais c'était pas terrible, honnêtement.
Benjamin Thomas.
Le reste était nul. Voilà. Mais Benjamin Thomas, c'était très bon.
On va pas enlever, évidemment, la médaille. Victor Wembanyama. Une autre info. Oui. Qui défie des inconnus aux échecs à New York. On s'en fout pas. Marc Madiot.
Oh, je m'en fous.
Ça m'étonne pas. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Sarah Pitkowski.
Ouais, j'ai trouvé l'image plutôt rigolote. J'ai vu plein de choses sur les réseaux. C'est rigolo.
J'adore le mec. Ouais.
Est-ce que vous adorez les échecs?
Moi,
en tout cas, comme lui, visiblement.
Moi, j'adore les échecs.
Après la victoire de Saint-Antonio à Brooklyn, il a fait un appel sur son compte X hier. Qui veut venir à ma rencontre à l'angle sud-ouest de Washington Square Park pour jouer aux échecs? Je suis là. Et ça a fonctionné.
Ah oui.
Il était là, une heure plus tard.
Sous la pluie.
Ça, c'est incroyable. Il pleut beaucoup. Il reste là et il défie les New Yorkais. Et on le voit dans cette vidéo postée sur le compte notamment de la NBA. Sarah.
L'image est sympathique, on aime bien ce genre de choses. Et puis il en a profité pour lancer un défi aux autres joueurs de NBA en disant faisons des matchs d'échecs et reversons des fonds à des associations. Bon, c'est un petit clin d'œil. On aime voir aussi les sportifs en dehors de leur cadre sportif et de voir leur centre d'intérêt parce qu'on est tous un peu gossip. Donc l'image est assez sympa et ça traduit que c'est quand même un jeune homme qui a les pieds sur terre, il mérite vraiment à être connu au-delà d'être de cet énorme champion de NBA. Ça a l'air d'être vraiment un super type.
Ouais, puis c'est, ça reste un gamin, il est jeune, ouais. Donc il s'amuse et quand on dit que tout est calculé chez d'autres, bah voilà, bah lui, il a envie de jouer aux échecs.
Ouais, il y a une forme de spontanéité, t'as raison.
Je trouve ça génial. Mmh. Et c'est un champion ultime. Alors il a tout compris aussi parce que je pense que ça va encore plaire encore plus.
Sa cote de popularité.
NBA, mais déjà, je sais pas si déjà il peut aller encore plus haut, il va aller encore plus haut.
Donc on a Wembanyama qui fait des matchs d'échecs et on a Léon Marchand qui est champion du Rubik's Cube. Hein. Donc, ah oui. Ouais, absolument.
Il y en a dans la tête aussi. Ouais.
On a des intellectuels.
Ouais. Marion, fan d'échecs.
Non, ouais, fan d'échecs, j'adore. Et puis surtout, il y a une tradition à New York pour ceux qui y sont allés. En fait, dans Central Park, il y a des tables d'échecs qui sont ouvertes au public, au grand public. Et beaucoup de jeunes champions américains ont commencé les échecs en jouant à Central Park, justement, contre des inconnus. Et Roger Federer, lui, avait un truc pendant les tournois du Grand Chelem. Souvent, il jouait sur un site d'échecs en ligne sous un faux pseudo. Et il adorait faire beaucoup de parties d'échecs avant de rentrer sur le terrain. Donc, il y a quand même, je trouve, dans cette partie de réflexion, ouais. Parce que les échecs, voilà, les échecs
étaient un stimulant cérébral. Marion,
ouais, moi je joue.
Ludo,
ouais, moi, un petit peu.
Marc. Au jardin du Luxembourg,
pas
tu peux jouer aussi.
Pas du tout.
Ah oui, mais tu devrais t'y mettre, Marc. Oui, au jardin du Luxembourg, ouais, t'as raison. Sarah?
Je sais y jouer, mais j'y joue pas spécialement.
Bon, alors on va se faire un battle là, d'échecs.
Ah ouais.
Moi je m'y suis remis moi dans les échecs là.
Ah, je commence par quelle ouverture?
Alors là, tu m'as piégé.
D'accord.
Il faut non, quand même. Non mais si en plus.
Ouais, François adore les échecs.
Je vous avoue alors que je m'y suis remis récemment. Ouais. Donc voilà, il faut quand même que je réapprenne tout ça. Mais je regarde des vidéos à 2h.
Après trop d'échecs du matin.
C'est plutôt Kasparov, Karpov ou Kinsen?
Non moi je suis comment Deep Blue. C'est Deep Blue, moi. Je suis plutôt l'ordinateur. Ah ouais, je suis l'ordinateur, moi.
Donc il a le melon, c'est bien.
Ouais, il avait perdu contre Kasparov. Non, mais c'est formidable, les échecs. Et quand tu, après, regardes, par exemple, un match de foot en ayant fait des échecs, tu comprends à quel point aussi, par exemple, le foot, ce sont des échecs. La défense.
On va rester là-dessus.
Non, voilà.
On va laisser avec cette réflexion.
Mais non, mais je suis sûr qu'un bon entraîneur.
Cette réflexion philosophique
c'est
profonde.
Un entraîneur qui jouera aux échecs. J'en suis persuadé.
C'est la fin de l'année, Marion. Très, très fatigué, François. Il faut l'excuser. Voilà.
On va jouer aux échecs, les amis.
Est-ce que Pep Guardiola est aujourd'hui bon aux échecs?
Je suis sûr que c'est un très bon joueur d'échecs, Pep Guardiola.
Alors, il n'a pas les bonnes pièces, alors, en ce moment.
Là, il est un peu, ouais.
Oui, là, il
Bah, justement, on en parle tout de suite. Merci pour la passe décisive, Sarah. Guardiola dans le dur avec Manchester City. Qu'un entraîneur comme lui est invirable? C'est la question qu'on vous pose 32-16 pour nous rejoindre. On en parle tout de suite dans les Grandes Gueules du Sport. Restez avec nous sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les Grandes Gueules du Sport.